Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le roman des damnés Sénazi, au service des vainqueurs après 1945, est un essai historique d'Éric Branca consacré à un aspect troublant de l'après-guerre, la réutilisation par les puissances victorieuses de cadres, techniciens et responsables nazis au nom des impératifs stratégiques de la guerre froide. L'ouvrage ne s'intéresse pas d'abord aux fugitifs traqués ou aux criminels cachés, mais à ceux qui ont pu poursuivre, au grand jour, des carrières influentes dans les appareils militaires, politiques, scientifiques ou de renseignements occidentaux. À travers une série de portraits, Branca examine comment la compétence, l'utilité anticommuniste et les intérêts d'État ont souvent pris le pas sur la justice et la dénazification. Le livre propose ainsi une lecture critique de l'après 1945 en montrant que la rupture avec le Troisième Reich fut parfois moins nette qu'on ne le dit habituellement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enquête sur la seconde vie des élites nazies dans l'ordre d'après-guerre. Le cœur du livre est de montrer qu'une partie des responsables du Troisième Reich n'a pas disparu dans la défaite, mais a été recyclée dans les structures des vainqueurs. Éric Branca ne traite pas seulement du sort des criminels poursuivis ou clandestins. Il met l'accent sur ceux qui ont obtenu une nouvelle légitimité en Occident. Cette perspective est importante, car elle déplace la question de la fuite vers celle de la réintégration. Le problème n'est plus uniquement celui de l'impunité individuelle, mais celui d'un système politique capable d'intégrer des hommes compromis dès lors qu'ils paraissent utiles. Le livre insiste ainsi sur la continuité de certains itinéraires, qui passent de la propagande, du renseignement ou de l'appareil militaire nazi à des postes prestigieux dans l'Allemagne de l'Ouest, l'OTAN, la CIA ou les programmes scientifiques américains. Cette approche révèle une zone grise de l'après-guerre, la victoire militaire ne produit pas automatiquement une rupture morale ou institutionnelle. Deuxièmement, la guerre froide comme moteur de la réhabilitation politique et technique, l'un des apports majeurs de l'ouvrage est d'expliquer pourquoi ces reconversions ont été possibles. Branca montre que la montée des tensions entre blocs a profondément modifié les priorités des puissances occidentales. Dans ce contexte, la lutte contre l'URSS rendait la compétence stratégique, scientifique ou militaire plus précieuse que l'exigence de sanctions. Le livre illustre ce mécanisme à travers des figures comme Reinhard Gehlen, précieux pour le renseignement sur le front de l'Est, ou Werner von Braun, dont le savoir en matière de fusées a été capté par les États-Unis. L'anticommunisme devient alors une justification politique permettant de suspendre, voire d'inverser, la logique de dénazification. Branca met en évidence une forme de pragmatisme d'État, ce qui compte n'est plus le passé du candidat, mais sa capacité à servir dans la confrontation avec le bloc soviétique. Cette lecture aide à comprendre comment des gouvernements démocratiques ont pu fermer les yeux sur des compromissions majeures au nom d'intérêts géopolitiques jugés prioritaires. Troisièmement, des portraits qui révèlent la diversité des réemplois nazis, le livre ne se contente pas d'une thèse générale. Il la rend concrète par une galerie de trajectoires distinctes. Kurt Georg Kiesinger incarne la réintégration politique, puisqu'un ancien cadre de la propagande nazie devient chancelier de la RFA. Adolf Hösinger illustre la continuité militaire, en passant d'un rôle majeur dans l'appareil de guerre hitlérien à une fonction centrale au sein de l'OTAN. Werner von Braun représente le transfert des compétences scientifiques vers l'industrie spatiale américaine. Otto Skorzeny montre, lui, la circulation entre guerres secrètes, affaires et renseignements dans l'Europe de l'après-guerre. Ernst Aschenbach, enfin, rappelle que des acteurs du pillage économique ont pu retrouver une respectabilité institutionnelle. Cette diversité est essentielle, elle prouve que la récupération des anciens nazis n'a pas suivi un seul modèle, mais plusieurs formes de recyclage selon les besoins d'État, des services et des administrations. Le livre rend ainsi visible la pluralité des mécanismes de réhabilitation, du prestige académique à l'influence politique, en passant par les réseaux clandestins. Quatrièmement, la dénazification entre ambition affichée et faiblesse pratique. Branca revient aussi sur l'échec relatif de la dénazification, non comme slogan moral, mais comme dispositif historique concret. L'ouvrage montre que les procédures mises en place après 1945 ont été rapidement submergées par le volume des dossiers et par la volonté politique de tourner la page. Le recours aux tribunaux allemands, la classification de nombreux accusés comme simples suiveurs et la hiérarchie fluctuante des responsabilités ont contribué à alléger fortement les sanctions. Cette situation ne signifie pas qu'il n'y ait eu ni procès ni condamnation, mais que l'ensemble du système a souvent privilégié la normalisation administrative à la justice exhaustive. Le livre met en lumière un paradoxe central alors que la chute du nazisme devait inaugurer une épuration radicale. L'urgence de reconstruire l'Allemagne et de stabiliser l'Europe a favorisé le retour rapide de nombreux compromis. Cette analyse donne au lecteur une compréhension plus fine de l'après-guerre, où les principes proclamés par les Alliés entre en conflit avec la réalité de la reconstruction et de la compétition Est-Ouest. En dernier lieu, une réflexion critique sur la mémoire occidentale et ses angles morts, au-delà des biographies, l'ouvrage interroge la manière dont les sociétés occidentales ont raconté l'après 1945, en montrant la carrière ultérieure d'anciens nazis dans des institutions démocratiques ou alliées. Branca oblige à reconsidérer l'idée d'une rupture nette et d'une épuration complète. Le livre a donc une portée mémorielle et historiographique. Il rappelle que l'histoire de la victoire sur le nazisme ne se réduit pas à Nuremberg, à la traque des fugitifs ou à la reconstruction morale de l'Europe. Il faut aussi prendre en compte les continuités humaines, administratives et stratégiques qui ont survécu à la guerre. Cette mise en perspective est particulièrement utile pour les lecteurs qui s'intéressent à l'histoire politique, aux services secrets, à la guerre froide et aux usages publics du passé. Elle permet de mieux comprendre pourquoi certaines figures ont été normalisées, parfois jusqu'à devenir des notables ou des experts respectés. Le livre se distingue ainsi par son refus du récit commode, il ne moralise pas seulement. Il documente les compromis qui ont rendu possible ces réhabilitations. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire contemporaine, aux passionnés de Seconde Guerre mondiale, de guerre froide et de renseignement, mais aussi à tous ceux qui veulent comprendre comment les logiques d'État peuvent infléchir la justice après un conflit majeur. Son intérêt ne tient pas seulement aux figures évoquées, mais à la structure d'ensemble qu'il met au jour la conversion de compétences nazies en ressources pour le vainqueur. En cela, il dépasse le simple catalogue de destins choquants. Il offre une clé de lecture sur la manière dont les démocraties occidentales ont composé avec des passés compromis lorsqu'elles ont estimé que l'anticommunisme, la reconstruction ou la supériorité technologique étaient prioritaires. Ce qui distingue l'ouvrage de beaucoup de livres sur les nazis d'après-guerre, c'est précisément ce déplacement du regard. Plutôt que la traque ou la cavale, il examine l'intégration, la respectabilité retrouvée et les continuités institutionnelles. Le résultat est un essai utile pour qui veut penser la frontière souvent instable entre justice, mémoire et raison d'État. Si vous souhaitez soutenir Eric Branca, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.